Vous écoutez RFI, soyez les bienvenus. Il est 2h ici à Paris, minuit en temps universel.
Margot Ratézic.
Au sommaire de votre journal, clap de fin de la première journée de la visite de Xi Jinping en France. Le président chinois et son homologue français ont plaidé pour une trêve mondiale des conflits pendant les Jeux Olympiques. Le monde se trouve à un tournant historique, explique le président français, vous l'entendrez. Et puis nous irons au Tchad où les dépouillements des bulletins de vote ont commencé. Élection cruciale censée mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire. Notre correspondant a rencontré des électeurs. Et en fin de journal, on parlera environnement. Avec nos océans qui se réchauffent, rien de surprenant, nous expliquera un directeur de recherche au CNRS. Cela fait des années que le GIEC alerte. En Ukraine, au Proche-Orient, la France et la Chine plaident pour une trêve mondiale des conflits pendant les Jeux Olympiques de Paris. Le président chinois Xi Jinping, en visite en France, s'est entretenu ce lundi avec Emmanuel Macron, mais aussi Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Pour le président français, le monde se trouve à un tournant historique où les menaces sont à un niveau inédit. Le rôle de la Chine n'est donc pas à négliger.
Nous avons également échangé sur le conflit au Proche-Orient et la montée des tensions dans l'ensemble de la région. Nous partageons à ce titre les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs, à savoir parvenir à un cessez-le-feu immédiat, les otages, protéger les populations, faciliter la délivrance de l'aide humanitaire, encourager une désescalade régionale et rouvrir une perspective politique. Il n'y a pas de double standard, ni pour la Chine, ni pour la France. Cela vaut aussi pour l'Iran, dont la fuite en avant nucléaire porte de nombreux risques. Et à ce titre, nous avons eu un long échange et notre souhait de pouvoir pleinement nous coordonner sur ce sujet. Nous avons pu évoquer les inquiétudes aussi sur les crises et tensions en Asie de l'Est, y compris sur la situation entre les deux rives du Détroit et en Corée du Nord, qui accélère ses programmes balistiques et nucléaires. Je veux ici vous remercier de la très grande clarté que la Chine a eue sur cette question et votre engagement pour la dénucléarisation pleine et entière de la péninsule.
C'était Emmanuel Macron au micro RFI de Cléa Broadhurst. J'ajoute que la rencontre avec Xi Jinping portait également sur le dossier ukrainien, un sujet épineux car Pékin est un soutien crucial de la Russie. Il a aussi été question des différends commerciaux entre la Chine et l'Union européenne. À quand la paix à Gaza? Depuis plusieurs heures, l'armée israélienne bombarde l'est de la ville de Rafah dans le sud de l'enclave. Au moins 5 morts. L'État hébreu avait ordonné dans la journée l'évacuation des civils du secteur en vue d'une offensive. Et ces bombardements interviennent alors que le Hamas vient d'annoncer son accord avec la proposition de cessez-le-feu présentée par l'Égypte et le Qatar. Une offre refusée par Israël car, je cite, trop éloignée de ses exigences. En attendant, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se veut ferme. Il confirme la poursuite de l'opération militaire sur Rafah, toujours dans le but, selon lui, d'obtenir la libération des otages du Hamas. Au Tchad, les dépouillements des bulletins de vote sont en cours. Présidentielle clé, censée mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire. Parmi les 10 candidats, 2 grands favoris, le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby, et son premier ministre, Succès Masra. Reportage de Carole Valade à la sortie des urnes.
Dans l'immense cour du lycée Walia, 9e arrondissement de N'Djamena, les derniers instants de vote font quelques déçus. Naora Gabia Bellou est le président du bureau de vote numéro 8.
C'est lui qui ne sait pas enrouler, il veut absolument voter. Donc ce n'est pas possible ici chez moi. Dans mon bureau de vote, pour celui qui n'a pas eu une carte d'électeur, ce n'est pas facile.
Un important dispositif sécuritaire encadre le dépouillement. Plusieurs véhicules et un camion armé de lance à eau a même été déployé. Arnaud Datiné, un jeune électeur.
Avec la vigilance de la population, tout se passe bien. Sinon, ce qui nous fait peur, c'est la présence de la force militaire. Ils nous ont empêché de filmer les procès-verbaux et autres. Donc, malheur à celui qui va filmer, son téléphone sera arraché.
Timothée Tétangué, lui, ne se laisse pas impressionner et reste présent jusqu'au bout du dépouillement.
On ne fait confiance à personne. Il faut être là pour voir les procès-verbaux et le score des candidats, c'est ça.
Tandis que la foule reprend en cœur le décompte des voix. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Mais le scrutin a été émaillé de la mort d'un électeur tué par balle dans le sud du pays. Les résultats provisoires sont attendus le 21 mai. L'Écosse connaît le nom de son futur Premier ministre. Il s'agit de John Swinney. Il succède à Oomza Youssef qui a démissionné il y a une semaine. Il n'avait plus la confiance d'assez de députés pour gouverner de manière efficace. Son clan, le parti indépendantiste SNP, doit donc se trouver un nouveau dirigeant. Emeline Vint, un seul élu s'est déclaré au terme de la période de dépôt de candidature. Il s'agit de John Swinney.
Unique candidat à la tête du Parti national écossais, le SNP, John Swinney devrait donc être désigné Premier ministre de la Nation d'ici à la fin de semaine. Le dernier aspirant potentiel, Graham McCormack, a renoncé à se présenter après discussion avec son concurrent. La semaine dernière, Kate Forbes, également pressentie et à la toute droite du parti, lui avait elle aussi apporté son soutien. Ces deux ralliements permettent d'éviter une campagne interne au SNP. L'élection précédente, en mars 2023, avait aggravé les divisions au sein du parti et contribué à l'échec du mandat de Oomza Youssef. C'est donc un soulagement pour les nationalistes écossais qui peuvent enfin s'afficher unis. Cependant, John Swinney est élu depuis 25 ans. Il a déjà dirigé le SNP quand celui-ci était dans l'opposition à Édimbourg, vice-premier ministre de Nicola Sturgeon pendant 9 ans. Et aujourd'hui à la tête d'un parti fissuré sur les questions fiscales et sociétales, son défi sera de réparer ces clivages et insuffler de la nouveauté pour pouvoir espérer avancer sur son objectif de toujours, l'indépendance écossaise. Emeline Vint, Londres, RFI.
Pas de suspense au Panama. Le grand favori des sondages, José Raúl Mulino, a remporté haut la main l'élection présidentielle. Le candidat conservateur a obtenu 34% des suffrages dans ce scrutin à un seul tour, soit 9 points d'avance sur son principal adversaire. José Raúl Mulino s'était présenté en remplacement de l'ex-président Ricardo Martinelli, condamné pour blanchiment et réfugié à l'ambassade du Nicaragua. La température de nos océans toujours plus élevée. L'année 2024 bat d'ores et déjà tous les records, alors même que l'année dernière avait déjà été marquée par une hausse considérable des niveaux de chaleur. Les conséquences de ce réchauffement sont connues. Mortalité de masse de certaines espèces comme les coraux, élévation du niveau des océans, augmentation des phénomènes extrêmes comme les cyclones. Mais si les scientifiques avaient bien prévu ce réchauffement des océans dû au dérèglement climatique, ils peinent à expliquer cette soudaine et rapide hausse des températures. Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS.
C'est pas une surprise parce que le GIEC avait prévu, déjà dans ce rapport de 2019 auquel j'avais contribué sur l'océan et la cryosphère, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur marine. La surprise, c'est qu'en fait, ça va beaucoup plus vite que prévu. On n'avait pas anticipé du tout dans ce rapport que quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard, on ait cette augmentation de température qui est excessivement importante, plus d'un degré, c'est absolument stupéfiant. Et donc, on espère que les modèles de prévision de la température de l'océan n'ont pas sous-estimé certains paramètres, comme El Niño, par exemple, cette année, l'année dernière et cette année, qui peut expliquer ces températures extrêmement importantes. Peut-être que ça a été sous-estimé dans les rapports du GIEC.
Vous venez d'entendre Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS. Il était interrogé par Igor Strauss du service environnement de RFI. Il était un passeur populaire et exigeant. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a rendu hommage à Bernard Pivot, mort ce lundi à 89 ans. Journaliste, écrivain, présentateur télé, Bernard Pivot a animé pendant 15 ans jusqu'en 1990 l'émission littéraire culte Apostrophe. Il a également présenté Bouillon de culture. Bernard Pivot a transmis à des millions de Français son amour de la langue française. En culture, toujours, alors on le sait, les appels à la grève se multiplient à l'approche des Jeux Olympiques qui se tiendront cet été à Paris. Mais avant les JO, un autre grand événement pourrait lui aussi être perturbé. Il s'agit du Festival de Cannes. À une semaine de l'ouverture, un collectif de travailleurs du cinéma appelle les salariés du festival à faire grève. Une mobilisation, je cite, pour dénoncer la précarité grandissante dans le secteur du cinéma. Et puis un mot de football pour clore ce journal. Mardi soir, vous pourrez suivre la demi-finale retour de Ligue des Champions PSG Dortmund. Les joueurs sont concentrés, confiants, mais pas trop, a déclaré Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain compte sur le 12e homme, à savoir les supporters parisiens eux-mêmes, pour pousser l'équipe. C'est la fin de ce journal, il est bientôt 2h10 à Paris, minuit 10 en temps universel. Merci d'écouter RFI, restez à l'écoute.